Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. C'est un revers pour Bernard Tapie. L'homme d'affaires va rembourser les 400 millions d'euros qui lui avaient été octroyés lors de l'arbitrage Tapie prononcé en juillet 2008. La Cour de cassation a tranché, explication d'Antoine Marette. Dans cette édition, nous reviendrons aussi sur la victoire au prud'homme des mineurs de Moselle. Plus de 700 mineurs obtiennent gain de cause. La justice reconnaît leur préjudice d'anxiété, mais les dédommagements restent symboliques, limités à 1000 euros par ouvrier. Ce sera un reportage signé Rachel Noël. À l'étranger, et nous irons à Londres où le successeur de David Cameron sera peut-être une femme. En tout cas, le favori Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, renonce à briguer la présidence du Parti conservateur. C'est un coup de théâtre que va nous raconter Franck Madvon. Et nous serons aussi en Turquie où l'enquête après l'attentat contre l'aéroport progresse. 43 morts dans cet attentat et 13 arrestations pour l'instant. Des informations commencent à circuler sur la nationalité des kamikazes qui seraient d'origine russe, ouzbek et kirghize. Enfin, cet assassinat dans une colonie en Israël qui fait grand bruit, c'est une jeune fille qui a été tuée dans son sommeil. À 18h20, du grain à moudre, avec vous Hervé Gardette.
Peut-on apprivoiser les moustiques? Nous allons poser la question à Annabella Fayou, François Lasserre et Frédéric Darrier.
À tout à l'heure. Il va donc payer. Bernard Tapie doit rembourser plus de 400 millions d'euros. Pour la Cour de cassation, il y a bien eu fraude et il ne fallait pas s'en tenir à une sentence arbitrale. La somme que va devoir rembourser l'ancien ministre et ancien homme d'affaires, toujours homme d'affaires plutôt, correspond à celle qu'il a perçue au moment de cet arbitrage après son litige avec le Crédit Lyonnais. Les juges ont donc validé l'annulation de cette transaction. Annulation elle-même prononcée par la Cour d'appel. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Tara.
Alors c'est un peu l'ultime revers pour Bernard Tapie dans un conflit que vous allez nous rappeler, Antoine, et qui s'étale sur plus de 20 ans.
Effectivement, il faut remonter à 1992 pour bien comprendre cette affaire. Bernard Tapie devient ministre de la ville sous François Mitterrand et il cherche à vendre Adidas pour éviter tout conflit d'intérêts. C'est le Crédit Lyonnais, banque publique à l'époque, qui s'occupe de cette vente. Adidas est vendu quelques mois plus tard au prix fixé par Bernard Tapie, à savoir 472 millions d'euros. L'homme d'affaires ne conteste pas la vente sur le moment, mais un an plus tard, alors qu'il est mis en faillite, il s'aperçoit que le Crédit Lyonnais a effectué un montage opaque grâce auquel elle a engrangé 396 millions de plus-value lors de la revente d'Adidas. Bernard Tapie s'estime berné, il porte plainte contre la banque. En 2008, il obtient la somme de 403 millions d'euros devant un tribunal arbitral. C'est cette décision qui a été annulée par la Cour d'appel, à révalider donc aujourd'hui par la Cour de cassation. La justice a donc annulé cet arbitrage car elle estime qu'il y avait des liens anciens, étroits et répétés entre l'un des arbitres, Pierre Estou, et Bernard Tapie, ainsi que l'avocat de Bernard Tapie. Celui-ci estimait que la Cour d'appel était incompétente pour juger cette affaire, car selon lui, l'arbitrage était international, argument rejeté par la Cour de cassation pour laquelle les opérations en cause, se déroulaient économiquement en France. Mais l'affaire Tapie Crédit Lyonnais ne s'arrête pas là. Un autre recours de l'homme d'affaires est en effet devant la Cour de cassation contre un autre arrêt de la Cour d'appel qui a condamné Bernard Tapie à rembourser les 404 millions d'euros. Et puis il y a le volet pénal de cette affaire. Les juges chargés de l'enquête ont mis en examen 6 personnes, dont Bernard Tapie et Pierre Estou. Quant à l'actuelle directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie à l'époque de l'arbitrage, elle a été renvoyée devant la Cour de justice de la République. Elle aussi s'est pourvue en cassation et son recours sera examiné demain.
Merci beaucoup pour toutes ces informations bien complètes, Antoine Marette. Et puisqu'on parle justice, on va s'arrêter sur une affaire qui touche de très près l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy n'est pas lui-même éclaboussé par cette affaire des sondages de l'Élysée, mais ce sont deux de ses proches qui se trouvent bien mis en examen, Patrick Buisson et Pierre Giacometti. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Tara.
Alors tous deux sont impliqués dans les sondages de l'Élysée et la Cour d'appel à Paris vient de valider les poursuites lancées à leur encontre.
Oui, ils avaient été mis en examen il y a quelques mois, c'est donc une confirmation de la Cour d'appel. Patrick Buisson, l'omniprésent conseiller à l'Élysée durant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et puis l'ami du président, Pierre Giacometti, ancien directeur de l'Institut de sondage Ipsos, et qui en janvier 2008, quelques mois après l'élection de Sarkozy, avait fondé sa propre société de conseil en stratégie d'opinion, Giacometti Perron. Pierre Giacometti est mis en examen pour recel de favoritisme. Sa société a touché entre 2 millions et 2 millions et demi d'euros pour des sondages effectués sans appel d'offres entre 2007 et 2012. Patrick Buisson, quant à lui, est non seulement mis en examen pour recel de favoritisme, mais aussi pour détournement de fonds publics, puisque sa société Publifact achetait des enquêtes d'opinion à des sociétés spécialisées et les revendait à l'Élysée avec une marge bénéficiaire comprise entre 65 et 70%. Bénéfice net pour Patrick Buisson entre 2007 et 2009, 1 400 000 euros. C'est un rapport de la Cour des comptes datant de 2009 qui avait dévoilé le poteau rose, rapport qui a servi de support à la plainte déposée par l'association de lutte contre la corruption en politique Anticor. Alors il n'y a pas que les deux anciens amis du président poursuivis dans cette affaire, il y a aussi l'ex-directrice de cabinet Emmanuelle Mignon, l'ex-secrétaire général de l'Élysée Claude Guéant, un conseiller en stratégie Jean-Michel Goudard et un conseiller opinion Julien Volpré. Tous des proches de l'ex-président quand il était en fonction. L'essentiel de leur défense est de tenter de faire valoir que l'Élysée n'est pas soumis aux règles édictées par le Code des marchés publics. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la tradition, c'est la coutume, explique l'un des avocats. Et en France, la coutume est source de droit. Il s'appuie sur un bréviaire laissé en son temps par le directeur financier du général de Gaulle, dans lequel il est stipulé que la République est l'héritière de la monarchie et que les fonds de la présidence s'apparentent aux deniers de la cassette royale, en conséquence de quoi les règles habituelles ne s'appliquent pas. Sur cette question, la Cour d'appel a aujourd'hui même refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'avocat Patrick Buisson. Nicolas Sarkozy, quant à lui, vous l'avez dit, n'est pas inquiété dans cette affaire en vertu de l'immunité, l'immunité dont bénéficie un président en exercice.
Immunité présidentielle, merci beaucoup Stéphane Robert. On s'arrête maintenant sur cette décision des prud'hommes de Forbach qui va faire jurisprudence en Moselle. 786 anciens mineurs viennent d'obtenir des prud'hommes donc la reconnaissance de leur préjudice d'anxiété. Le tribunal condamne les Charbonnages de France à leur verser 1000 euros de dommages et intérêts à chacun. C'est la deuxième fois que ce préjudice est reconnu pour des ouvriers qui travaillent dans un autre secteur que celui de l'amiante. La victoire est donc importante mais presque symbolique en raison du faible montant versé à chacun. Ce reportage signé Rachel Noël.
Lunettes vissées sur le nez, dans son bureau de la CFDT, François Dossot s'est déjà remis au boulot pour éplucher les dossiers un par un. L'ancien délégué mineur ne crie pas victoire. Certes, les prud'hommes de Forbach ont donné raison aux gueules noires, mais il fulmine contre le montant des indemnités proposées, ridiculement basse.
Si un tribunal reconnaît qu'un mineur est anxieux du fait qu'il a été exposé à 10 ou 20 cancérogènes, ce qui est le cas pour certaines personnes, il n'y a aucune raison que son indemnisation soit 10 fois inférieure à ce qui est donné à un salarié de l'amiante. Quelqu'un qui est exposé uniquement à l'amiante, c'est de l'ordre de 10 000 euros. Et là, nous sommes exposés à l'amiante, mais aussi à 10 autres cancérogènes. Là, il y a 1 000 euros en tout. Donc c'est ridicule.
Car depuis 3 ans que la procédure est lancée, l'anxiété est devenue une réalité pour certains. Tous les plaignants étaient en bonne santé au début de la procédure. Aujourd'hui, 100 sont malades, 20 d'entre eux sont décédés. Reste que ce jugement est déjà un premier pas pour leur avocat Jean-Paul Tessonnière.
Symboliquement, je crois que c'est extrêmement important. Bien sûr que les mineurs savaient qu'ils étaient exposés à des risques importants, le coup de grisou, les coups de poussière, les accidents miniers extrêmement spectaculaires, dramatiques, mais il y avait derrière un risque beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus invisible, qui était à l'œuvre, qui est le risque cancérogène. Et les mineurs ont été exposés aux particules de diesel, à l'amiante, à la poussière de charbon. Dans le contexte actuel, il y avait un manque de reconnaissance et ce jugement, dans une certaine mesure, comble ce manque de reconnaissance.
Le marathon judiciaire n'est sans doute pas fini. Les Charbonnages de France ont 30 jours pour faire appel.
Rachel Noël de France Bleu, Lorraine Nord. Les nouvelles concertations sur la loi travail, épisode 2. Hier, les syndicats étaient reçus dans le bureau de Manuel Valls pour se voir proposer un compromis, quelques amendements qui pourraient venir réaffirmer la prééminence des accords de branche dans plusieurs domaines. Compromis qui leur paraît visiblement insuffisant puisque l'intersyndical appelle à se mobiliser une nouvelle fois le 5 juillet prochain. Et cet après-midi, c'était donc au tour du patronat d'être reçu par le Premier ministre et par sa ministre du Travail. Sans surprise, le patron du MEDEF est sorti très déçu de l'entrevue. Pierre Gattaz assure que la loi El Khomri, je cite, ne servira strictement à rien pour l'emploi. Et il ajoute que la quatrième version est totalement illisible. Bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir Tara.
On sent bien que le MEDEF est particulièrement remonté cet après-midi et pas uniquement en raison de la réforme du Code du Travail.
Effectivement, le patronat qui était favorable à la toute première version du texte sur la loi travail sait bien que ça n'est plus désormais qu'un lointain souvenir et c'est sur un autre sujet qu'il avait de toute façon prévu d'accepter. C'est ses entrevues avec Manuel Valls cet après-midi, le compte personnel de prévention de la pénibilité, un thème qui cristallise depuis plusieurs mois le mécontentement des chefs d'entreprise. Il est on ne peut plus d'actualité puisque c'est demain, 1er juillet, que la prise en compte des 6 derniers critères de pénibilité doit s'appliquer officiellement. Alors on rappelle que la pénibilité concerne potentiellement 3 millions de personnes exposées par exemple à du travail de nuit, à des horaires alternés ou à un travail répétitif. Et pour lister ces contraintes, les entreprises doivent, depuis l'année dernière, remplir des fiches d'exposition pour chaque employé. Des fiches transmises aux caisses de retraite qui les transforment en points. Chaque salarié peut ensuite utiliser ces points différemment pour partir plutôt à la retraite, suivre des formations ou accéder à des postes moins pénibles. Ce qui pose problème, c'est la rédaction de ces fiches. Rien de plus simple, affirme le ministère des Affaires sociales, qui indique que c'est déjà fait d'ailleurs pour 500 000 salariés. Usine à gaz, rétorque de leur côté les organisations patronales, qui l'envisagent comme une nouvelle contrainte et pour qui les 6 derniers critères qui entrent donc en application demain, dont le bruit, les températures extrêmes et les agents chimiques dangereux, sont techniquement inapplicables à cause, disent-ils, des risques de litige. Ce qui a conduit Pierre Gattaz à refuser tout simplement d'appliquer la loi. Les autres organisations patronales demandent, elles, un moratoire. Pour l'instant, cet ultimatum du MEDEF n'a abouti à rien, sauf à énerver l'exécutif qui fait valoir que les entreprises ne sont pas au-dessus des lois.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Le gouvernement semble soucieux de redonner du pouvoir d'achat aux familles. C'est l'un des arguments qui justifie l'encadrement des loyers qui est déjà effectif à Paris. Or, le dispositif va être élargi à 412 communes d'Île-de-France. La ministre Emmanuelle Cosse vient de signer un décret. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
C'est une mesure très attendue par les locataires, Anne, mais il faut préciser tout de même qu'elle n'entrera pas en vigueur avant 2018.
Oui, car il faut établir les fameux loyers de référence, loyers qui permettront en 2018 donc de voir si les prix sont dans la bonne fourchette définie par la loi Allure, à savoir ne pas dépasser de 20% le prix de référence ni lui être inférieur de 30%. En Île-de-France, c'est l'OLAP, l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne qui définit cet index de prix pour la préfecture. Et la méthodologie appliquée prend du temps, explique sa directrice Geneviève Prandy.
Notre première collecte complète, enfin suffisante, va être en 2017. Donc on va faire un zonage avec cette collecte-là. Donc on va essayer de répartir les communes ou des morceaux de communes selon leur niveau de loyer, toutes choses égales par ailleurs. Et donc on fait des regroupements de communes ou des regroupements de morceaux de communes pour faire des zones homogènes en termes de niveau de loyer. Et on a besoin de la deuxième collecte, donc qui sera 2018, pour confirmer que le zonage est correct et que les médianes qu'on calcule n'évoluent pas mal d'une année sur l'autre, n'évoluent pas trop à la hausse ou à la baisse d'une année sur l'autre.
Alors le secteur de l'immobilier a accueilli très froidement cette extension de l'encadrement des loyers à l'agglomération parisienne. Elle est inutile, estiment les professionnels, car les prix sont actuellement à la stabilisation. La région Île-de-France dénonce également une mesure court-termiste, électorale et sans concertation. Selon sa présidente LR, Valérie Pécresse, le blocage des loyers en baissant la rentabilité de l'investissement locatif va dissuader des opérations de construction et de rénovation. L'association de consommateurs CLCV observe néanmoins que les logements en petite couronne ont tendance actuellement à se louer plus cher que le maximum autorisé à Paris. Paris qui pratique donc depuis un an l'encadrement des loyers.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg. Et puis l'encadrement des loyers devrait aussi arriver à Lille d'ici fin 2016 et à Grenoble dans un an et demi. Les suites du Brexit voté il y a une semaine, jour pour jour, par les Britanniques. À Londres, la publication du rapport annuel sur le budget a été reportée, sine die. Les prévisions de 2% de croissance sur lesquelles était assis cet exercice de projection budgétaire, ces prévisions sont pour l'instant tout simplement impossibles à tenir. Pour le FMI, par ailleurs, l'incertitude générée par ce référendum est le principal risque pour l'économie mondiale. Alors sur le plan de la politique intérieure outre-Manche, l'incertitude règne surtout aujourd'hui au Parti conservateur qui se cherche un nouveau patron depuis la démission annoncée de David Cameron. Les commentateurs avaient misé sur Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, que tout le monde voyait déjà briguer le fauteuil de président du Parti conservateur avant de s'installer au 10 Downing Street. Mais coup de théâtre, à la mi-journée, le favori des conservateurs renonce à se présenter. Explication, signé Franck Madvon.
Boris Johnson était ce matin futur Premier ministre, il est ce soir simple député et même, pour les pro-UE, le fossoyeur du Royaume-Uni. Entre-temps, le ministre de la Justice Michael Gove, son allié pro-Brexit, s'est porté candidat à la succession de David Cameron à la surprise générale. Il était censé soutenir Boris, mais il n'aurait pas obtenu de l'ancien maire de Londres les garanties qu'il attendait. Il aurait aussi réalisé que Boris Johnson n'avait pas les épaules pour le job, comme le montrent ses propos d'après-référendum, très différents des promesses de campagne, notamment sur l'immigration. Gove a donc décidé de partir lui-même au combat. Dès lors, Boris Harris n'avait sans doute plus les moyens de l'emporter, il était moins crédible, surtout face à l'autre poids lourd de la course, Theresa May. La ministre de l'Intérieur est sérieuse, respectée, elle a fait campagne pour le maintien dans l'UE, mais elle est restée en retrait, elle peut rassembler le parti, elle semble favorite pour succéder à David Cameron.
Franck Madvon à Londres. L'enquête progresse après les 3 attentats kamikazes qui ont frappé l'aéroport d'Istanbul. 13 personnes ont été arrêtées, parmi elles 4 étrangers. Et puis surtout, des informations commencent à filtrer sur le profil des 3 kamikazes. Rien d'officiel, il faut encore se montrer prudent, mais des révélations sur la nationalité des assaillants circulent. Sur place à Istanbul, Alexandre Billette.
48 heures après l'attentat, les premiers éléments du scénario de l'attaque se précisent. Déjà au moins 13 suspects ont été placés en garde à vue jeudi matin après des perquisitions simultanées dans 16 lieux différents à Istanbul. L'identité des suspects n'a pas été rendue publique. En revanche, l'origine des 3 kamikazes de l'aéroport se précise. Selon plus d'une source, il s'agirait d'un ressortissant ouzbek, d'un kirghize et d'un citoyen russe, originaire de la République du Daghestan, dans le nord du Caucase. Et la presse turque qui commence également à y voir plus clair sur le déroulé des événements mardi. Arrivés ensemble en taxi, les 3 kamikazes se sont séparés. L'un d'eux s'est fait d'abord exploser à l'entrée des départs. Le second a profité du chaos pour déclencher ses explosifs dans le hall des arrivées. Le troisième, enfin, a fait exploser sa charge dans le parking adjacent. L'enquête avance donc alors que les questions se multiplient sur l'impuissance des services de renseignement. Débat qui s'est transporté également au Parlement turc. Les 3 partis d'opposition ont demandé l'ouverture d'une commission parlementaire sur l'attentat. Une enquête qui n'aura pas lieu puisque les députés pro-Erdogan se sont prononcés contre. Un refus incompréhensible pour l'opposition qui accuse le parti au pouvoir de ne pas prendre la mesure de la menace terroriste de Daesh.
Alexandre Billette à Istanbul et le bilan de l'attaque s'est encore alourdi. 43 personnes sont décédées depuis les attentats. Et toujours en Turquie, le représentant de Reporters sans frontières, Erol Önderoğlu, et un autre militant qui avait été écroué tous deux il y a 10 jours pour propagande terroriste en faveur des rebelles kurdes viennent d'être remis en liberté conditionnelle. Un troisième militant est pour l'instant encore en prison. Les poursuites judiciaires à l'encontre de ces 3 personnes ne sont pas abandonnées. Un procureur d'Istanbul réclame jusqu'à 14 ans et demi de prison. On va partir maintenant pour Israël où un nouvel assassinat traumatise la population. Une adolescente israélienne de 13 ans a été poignardée aujourd'hui par un Palestinien dans une colonie près de la ville palestinienne d'Hébron. Elle a succombé à ses blessures et le scénario de l'attaque fait très peur car l'homme a attaqué cette jeune fille dans sa chambre. Étienne Monin.
Devant la maison de la famille Ariel plantée au milieu des arbustes et des vignes qui collent la clôture barbelée de la colonie, plusieurs hommes se rassemblent pour une prière qui a lieu juste avant la levée du corps. Autour, on voit patrouiller l'armée, il y a beaucoup d'hommes en armes. La colonie a subi plusieurs attaques depuis le début de la vague de violence en octobre. Elle est dans l'épicentre des attaques palestiniennes à côté d'Hébron, mais c'est l'assassinat le plus marquant contre une fillette dans sa chambre alors qu'elle dormait d'après les premiers éléments donnés à la presse israélienne. Dans la colonie, les habitants interrogés dénoncent un acte de barbarie, mais les colons entendent, disent-ils, résister au nom de la terre qu'ils considèrent comme la leur avec la protection divine. Cette nouvelle attaque, presque un mois après l'attentat de Tel Aviv qui a tué 4 civils, est un important test pour le premier ministre israélien qui a nommé juste avant l'ultranationaliste Avigdor Lieberman comme ministre de la Défense. Des députés de la droite demandent aujourd'hui l'accélération de la colonisation. Le premier ministre a lui dénoncé l'inhumanité du meurtrier. Il demande au monde entier de condamner ce meurtre comme il a condamné les attentats d'Orlando ou de Bruxelles, c'est-à-dire sans prendre en compte le contexte de l'occupation qui est combattue en Israël par une minorité.
Étienne Monin sur place donc dans cette colonie proche de Hébron. On va terminer avec ce double attentat suicide très meurtrier à Kaboul. Il a visé des jeunes recrues d'une académie de police. Les kamikazes ont tué une 30aine de jeunes gens. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Tara.
Nous sommes dans la traditionnelle période offensive. Les talibans frappent surtout au printemps et l'été en Afghanistan. Et le moins qu'on puisse dire, Eric, c'est que les attaques se sont bien multipliées ces derniers mois.
Oui Tara, comme chaque année, avec le printemps, les talibans relancent leurs offensives un peu tous azimuts. Un autre convoi militaire dans le sud du pays, celui-là, a été également visé ce jeudi après-midi, ne faisant que 4 victimes. Et ce matin, le chef de la sécurité de la province de Ghazni, au sud-ouest de Kaboul, évoquait devant la presse locale quelques 179 attaques des talibans dans sa seule province de Ghazni pour le mois de juin. Des attaques qui demeurent très ciblées, qui visent les convois militaires, les commissariats de police, les véhicules de l'administration. En fait, ce sont essentiellement les représentants de l'État afghan qui sont ainsi ainsi pris pour cible par les talibans. Au moins, ce ne sont pas les civils. Pour ce qui est de l'attaque de ce matin qui visait les cadets de la police, le modus operandi y rappelle surtout les méthodes d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, mais elle a bien été revendiquée par les talibans. Elle visait un convoi de bus transportant des cadets de l'école de police, lesquels venaient tous d'être brevetés et rentrés vers Kaboul en permission pour les fêtes de fin de Ramadan. Un premier kamikaze fait détonner un engin explosif, a priori caché dans sa voiture, passant à proximité du convoi. L'explosion est suffisamment forte pour totalement éventrer l'un des 5 bus. Quelques minutes plus tard, lorsque les secours se pressent autour des lieux du drame, un second kamikaze fait exploser sa bombe à son tour, emportant avec lui plusieurs de ses sauveteurs, policiers, cadets ou civils se trouvant à proximité.
Un récit signé Éric Biégala. Merci. Le temps qu'il va faire demain en France, beaucoup de nuages sur la moitié nord, encore quelques pluies en Normandie et en Picardie, plus de soleil au sud. À 22h, prochain journal complet de la rédaction présenté par Stanislas Vazak.